Bienvenue à News in Slow French, un programme plein d'apprentissage et de divertissement. Nous sommes le jeudi 13 avril 2017. Bienvenue pour notre programme hebdomadaire News in Slow French. Bonjour à tous nos auditeurs.
Salut Catherine, bonjour à tous.
Dans la première partie du programme d'aujourd'hui, nous parlerons des attaques de missiles américaines qui ont frappé la Syrie vendredi. Nous continuerons avec un rapport publié par Amnesty International indiquant que le nombre d'exécutions dans le monde a diminué de plus d'un tiers depuis 2015. Nous discuterons des résultats d'une étude scientifique sur certains facteurs qui auraient pu mener nos ancêtres à pratiquer le cannibalisme. Et enfin, nous conclurons avec l'histoire d'un jeune étudiant américain musulman qui a été admis dans la prestigieuse université de Stanford après avoir écrit « Black Lives Matter » 100 fois dans son dossier de candidature.
C'était osé. Cet étudiant a pris un gros risque.
Je suis d'accord, Bruno. Stanford est une université très prestigieuse et compte tenu du nombre de candidatures reçues par l'administration de cette école chaque jour, sa demande aurait pu facilement être rejetée.
Alors, pourquoi penses-tu que Stanford l'a admis?
Eh bien, c'est une très bonne question, Bruno, et nous y répondrons dans un instant. Mais pour le moment, continuons les annonces. La seconde partie sera consacrée, comme toujours, à la langue et la culture française. Dans la section grammaticale de notre programme, nous reverrons les conjonctions de subordination comme, lorsque, puisque, quand, que, quoique et si. Et nous conclurons notre émission avec l'expression française « être aux anges ».
Excellent, Catherine.
Merci, Bruno. Commençons notre émission.
L'incertitude règne après les frappes aériennes américaines sur la Syrie.
Les États-Unis ont lancé jeudi dernier des frappes aériennes contre la Syrie, deux jours après l'utilisation d'armes chimiques par le gouvernement du président Bachar al-Assad contre des civils. Ces frappes, qui visaient la base aérienne, d'où l'attaque chimique a été lancée, ont soulevé des questions sur les actions à mener en Syrie et l'avenir du gouvernement d'Assad. Tandis que les alliés de la Syrie, la Russie et l'Iran, ont rapidement condamné cette attaque, les dirigeants européens l'ont largement approuvée, alors que certains d'entre eux étaient jusque-là sceptiques quant à la politique étrangère de Trump. Dans une déclaration commune, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande ont dit que Assad portait l'entière responsabilité de ses frappes aériennes, tandis que les gouvernements britanniques et néerlandais ont qualifié ces frappes de réponses appropriées aux attaques chimiques. D'un autre côté, les politiciens de l'opposition qui soutenaient Trump, notamment Nigel Farage et Marine Le Pen, ont condamné ces frappes. Lors d'un sommet du G7 qui a eu lieu cette semaine, le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, Boris Johnson, a préconisé de nouvelles sanctions contre la Syrie et la Russie en raison des attaques chimiques. Cependant, le ministre des Affaires étrangères allemand, Sigmar Gabriel, a déclaré que les puissances européennes favorisent des pourparlers avec la Russie et l'Iran afin de résoudre le conflit syrien de manière pacifique.
OK. Les missiles ont été envoyés. Assad a reçu le message. Et maintenant ? Et puis, réflexion faite, c'était quoi le message en fait ? Catherine, tout cela me rend très nerveux.
Je ressens la même chose, Bruno. Je doute que ces frappes aériennes dissuadent Assad de s'en prendre à nouveau aux civils. Il recommencera. Peut-être pas avec du gaz, mais avec d'autres types d'armes.
Par exemple, il pourrait leur couper l'accès à toute nourriture.
Oui.
Alors peut-être que la meilleure solution serait de mener des discussions en impliquant la Russie et l'Iran. Qu'en penses-tu ?
Pourquoi la Russie voudrait-elle négocier ?
Oh, la Russie a beaucoup d'intérêts en jeu. Pense à l'est de l'Ukraine, à la Crimée, aux sanctions, à l'ingérence dans les élections occidentales, aux menaces qui pèsent sur les journalistes et sur l'opposition en Russie. Je continue ?
Je n'en sais rien, Bruno. Je sais juste qu'on doit faire quelque chose pour arrêter les atrocités qui se produisent en Syrie tous les jours.
Le nombre d'exécutions dans le monde baisse de plus d'un tiers.
Le nombre d'exécutions dans le monde a diminué de 37% entre 2015 et 2016, selon un rapport publié mardi par Amnesty International. Au moins 1032 personnes ont été mises à mort l'an dernier, soit 602 de moins que l'année précédente. Toutefois, le rapport note aussi que 3117 personnes ont reçu une condamnation à mort en 2016, ce qui représente un record. Quatre pays, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak et le Pakistan, sont responsables de 87% des exécutions enregistrées l'an dernier. Et l'Iran, à lui seul, a réalisé 55% des exécutions. Les chiffres de ce rapport ne comprennent pas la Chine, parce qu'elle garde secrète les informations sur ses exécutions. Or, on suppose qu'elle met à mort des milliers de personnes chaque année. Les États-Unis, qui ont exécuté 20 personnes l'année dernière, ne figurent plus dans la liste des 5 pays qui exécutent le plus pour la première fois depuis 2006. Le nombre de pays qui pratiquent la peine de mort a considérablement diminué au cours des dernières décennies. 104 pays ont totalement aboli la peine de mort, contre 64 en 1997 et 16 en 1977.
Catherine, près de 19 000 personnes sont actuellement condamnées à mort. Rien qu'aux États-Unis, 7 personnes devraient être exécutées ce mois-ci. Cela représente le tiers du nombre de personnes qui ont été mises à mort dans le pays pour toute l'année 2016.
On ne peut nier qu'il reste encore de graves problèmes à régler. Mais on observe aussi des signes d'amélioration. Au Pakistan, l'un des pays qui compte le plus d'exécutions, leur nombre a diminué de 73% l'an dernier. Au Moyen-Orient et en Afrique, le nombre de mises à mort a baissé de 28%.
On espère que la Chine va suivre leur exemple. Le gouvernement a dit qu'il va réformer son système de condamnation à mort, mais il a encore un long chemin à parcourir.
Les pays européens ont abandonné la peine de mort il y a des années.
Quand exactement ?
La plupart des pays ont commencé par arrêter de pratiquer la peine de mort et l'ont ensuite abolie officiellement quelques années plus tard.
Comment ça s'est passé en Espagne ?
La dernière exécution en Espagne a eu lieu en 1975. Mais la peine capitale n'a été abolie qu'en 1995.
Et en Italie ?
Il y a eu un moratoire en 1947 et la loi est passée en 1948.
Et en Allemagne ?
La peine de mort a été abolie en 1949 en Allemagne de l'Ouest et en 1987 en Allemagne de l'Est.
Et en France?
La dernière exécution a eu lieu en 1977. Par contre, durant son histoire, la France a une première fois aboli, puis rétabli la peine de mort. Elle a été initialement abolie en 1795, mais réintroduite par Napoléon en 1810. L'abolition a finalement de nouveau été promulguée en 1981 et inscrite dans la Constitution en 2007.
Une étude suggère que le cannibalisme n'est pas influencé par la faim.
Les anthropologues sont depuis longtemps fascinés par le cannibalisme et se sont toujours demandé ce qui pouvait motiver des humains à manger leurs semblables. Une étude sur le cannibalisme préhistorique, publiée jeudi dernier dans la revue Scientific Reports, avance que dans la plupart des cas, cette pratique pourrait ne pas avoir été provoquée par la faim, mais plutôt par des facteurs sociaux ou culturels. James Cole, un anthropologue de l'Université de Brighton en Angleterre, a analysé combien de calories un homme préhistorique d'environ 50 kg, 110 livres, aurait contenu. Il a constaté que, par rapport à d'autres animaux chassés à l'époque, les humains offrent une valeur nutritive relativement faible. Avec ses 144 000 calories, un humain aurait fourni à une tribu beaucoup moins de calories qu'une vache primitive, un bison ou un autre gibier. Le cannibalisme aurait donc été une stratégie inefficace en termes de calories, d'autant plus que les humains préhistoriques avaient des besoins énergétiques plus élevés. Les raisons du cannibalisme restent un mystère. Dans certains cas, il aurait pu être provoqué par la famine. Dans d'autres, il aurait pu être pratiqué comme signe de conquête. D'autres cas de cannibalisme étaient de nature rituelle, comme lorsque les gens mangeaient le cerveau de leurs parents après leur mort.
Pouah ! Il n'est pas facile de penser que certains humains, et parmi eux nos ancêtres, ont pratiqué le cannibalisme pendant des centaines de milliers d'années. Essentiellement pour s'amuser.
Pour s'amuser ?
Eh bien, si le cannibalisme était une activité sociale, culturelle ou religieuse, cela veut dire que manger d'autres êtres humains était pour eux un passe-temps.
Bruno, je pense que tu vas un peu loin en parlant de passe-temps. Mais tu as raison, nos ancêtres avaient recours au cannibalisme, même quand d'autres aliments étaient disponibles. Ces humains organisaient parfois des festins cannibales avec des membres de groupes rivaux au menu.
Et Catherine, manger de la chair humaine n'était pas seulement une expérience gastronomique.
Une expérience gastronomique ?
Catherine, tu sembles choquée par le choix de mes mots, mais ce que je voulais dire est tout à fait sérieux. Le cannibalisme faisait partie d'un rituel visant à renforcer les tribus ou à humilier un ennemi, tout comme les rites de sacrifice religieux pratiqués dans les tribus aztèques ou incas. Un étudiant écrit le hashtag Black Lives Matter 100 fois sur sa demande d'inscription à Stanford et il est admis.
Un lycéen a suscité un débat sur Twitter au début du mois à cause de la déclaration succincte, mais non conventionnelle, qu'il a écrite sur sa demande d'inscription à l'université de Stanford. En réponse à la question « Qu'est-ce qui compte pour vous et pourquoi ?» Ziad Ahmed, un jeune de 18 ans, a écrit « Le hashtag Black Lives Matter, 100 fois ». Ahmed a été accepté dans cette université alors qu'elle a admis cette année moins de 5% des candidats. Ahmed, un musulman pratiquant, a déclaré que sa réponse reflétait sa soif de justice. Il s'est impliqué dans la défense de la justice sociale tout au long de ses années de lycée, en créant en 2013 une association à but non lucratif qui vise à mettre fin aux préjugés et en servant au sein d'une organisation qui lutte contre le racisme. Il a également fait un stage au Congrès américain et au département d'État et s'est porté volontaire pour la campagne présidentielle de Hillary Clinton. Quand il a été admis à Stanford, Ahmed a déclaré qu'il était heureux qu'on considère son militantisme impénitent comme un atout plutôt que comme un handicap. Cependant, les réactions sur Twitter ont été mitigées. Un internaute a écrit qu'un enfant noir n'aurait jamais été récompensé s'il avait fait la même chose.
Waouh ! Voilà un exemple de déclaration à la fois simple et créative.
Beaucoup sont de ton avis, Bruno. Son acte était le fruit d'une mûre réflexion. Il a dit qu'il voulait montrer à quel point un changement urgent était nécessaire. Il a également déclaré qu'entre un tiers et un quart de la communauté musulmane aux États-Unis est noire, de sorte que la justice pour les Noirs est étroitement liée à la justice pour les musulmans.
Oui, bien sûr. Mais je parle de la forme inhabituelle qu'il a choisie pour faire passer son message, une candidature pour l'université de Stanford.
Eh bien, je pense que c'était un peu irrévérencieux. Stanford est l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Pourquoi n'a-t-il pas écrit un texte sur les liens entre la communauté musulmane et les communautés noires? Ou expliquer pourquoi son travail est aussi important pour lui.
S'il l'avait fait, tu crois que nous aurions entendu parler de son essai dans les médias et que nous en discuterions aujourd'hui, comme nous sommes en train de le faire?
Probablement pas.
Alors, il a trouvé un moyen très efficace pour faire parler les gens et ce mode d'expression ne peut s'utiliser qu'une seule fois.
Puis on continue avec la grammaire, un mal nécessaire.
The conjunction of subordination. Comme, lorsque, puisque, quand, que, quoique. And si.
Puisque chaque année a lieu le printemps des poètes, j'ai pensé que nous pourrions aujourd'hui parler du poète Ronsard. Tu aimes ses poèmes?
Quoi qu'il ne soit pas mon poète préféré, je reconnais qu'il a beaucoup contribué au rayonnement de la langue française, comme Joachim du Bellay.
Ce n'est pas pour rien s'il est surnommé le poète des princes et le prince des poètes. Il a servi à la cour de plusieurs rois de France et quand il est mort, il a eu droit à un hommage officiel. Il a ainsi été reconnu de son vivant, quoiqu'il était ensuite boudé par les auteurs classiques à cause de son maniérisme.
Je comprends pourquoi. Lorsqu'on lit ses poèmes, on ne ressent pas beaucoup de sentiments.
C'est peut-être parce qu'on a tellement entendu ses poèmes quand on était petit qu'on n'en voit plus l'authenticité, un peu comme avec les fables de La Fontaine.
Ce n'est pas faux. Lorsque j'avais 10 ans, j'ai dû apprendre « Mignonne, allons voir si la rose » et je l'ai tellement répété que je détestais Ronsard. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose.
Tu as oublié la suite ?
Oui, mais je me souviens de la dernière strophe. Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté.
Bravo ! Ronsard avait 20 ans quand il a écrit ce poème. Puisque tu connais ces vers, j'imagine que tu connais aussi le sonnet pour Hélène qu'il a écrit 25 ans plus tard.
Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, dirai, chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Franchement, tu ne trouves pas qu'il était très prétentieux ? Il avait visiblement pris la grosse tête.
Oui, un peu. Mais en même temps, tous les artistes cherchent la reconnaissance et la gloire, quoiqu'ils ne se vendent pas tous aussi ouvertement.
Tu as sans doute raison. En tout cas, je préfère la fin du poème. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.
Moi aussi. Quelle phrase appropriée en ce début de printemps, tu ne trouves pas ?
Oui.
Mais je voulais partager avec toi un autre poème de Ronsard. Je suis sûre qu'il t'émouvra plus que ces poèmes sur l'amour et la fuite du temps.
Vraiment ? C'est une ode à la nourriture ?
Oui, plus précisément, une ode à la salade. Une salade, amassons et faisons part à nos ans des fruits de la saison. Nous laverons nos herbes à pleine main au cours sacré de ma belle fontaine. La blanchirons de sel en maintes parts. L'arroserons d'un vinaigre rosard, l'engraisseront de l'huile de Provence, l'huile qui vient aux oliviers de France.
C'est beau. C'est un peu comme une recette de cuisine. La bonne salade verte assaisonnée d'huile d'olive de Provence qui accompagne le fromage avant le dessert est une grande tradition française.
Surtout quand elle est servie avec un bon vin rouge.
Oui. Alors, goûtons dès aujourd'hui les salades de nos envies.
On termine avec les expressions idiomatiques au goût chic.
Être aux anges, to be ecstatic. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir à cet instant, Catherine ?
Eh bien, si j'avais une bonne petite pâtisserie à la crème devant moi, je serais tout simplement aux anges. Mais je ne pense pas que tu aies ça sur toi.
Eh non, malheureusement. Alors comme ça, tu as un faible pour la crème.
Eh oui, je l'avoue. Religieuse, millefeuille, Paris-Brest, tartelette aux fruits et à la crème pâtissière, etc. Ce sont mes petits gâteaux préférés.
Je viens de me dire que le nom des pâtisseries est un sujet d'étude intéressant. Par exemple, il est facile de comprendre pourquoi la religieuse s'appelle ainsi. Les deux petits choux montés l'un sur l'autre, au café ou au chocolat, peuvent effectivement faire penser à une tenue de religieuse. Le chou du dessus, qui est plus petit, est évidemment censé représenter la tête.
Religieuse ou pas, quand je mange cette pâtisserie, je suis aux anges.
J'imagine. Mais le Paris-Brest, pourquoi s'appelle-t-il ainsi ? C'est un nom que j'ai utilisé des milliers de fois, mais je suppose qu'il y a une explication.
Il fait référence à une course cycliste qui avait lieu chaque année entre Paris et Brest et qui a disparu en 1951. La pâtisserie a été créée en hommage à cette course. Et c'est pour cette raison que le gâteau a une forme circulaire. Il représente en fait une roue de vélo.
Faire un gâteau à la crème en hommage au sport, c'est ironique, mais ça me donne des idées. À défaut d'y participer, on pourrait créer le Paris-Nice et le Tour de France. Qu'en dis-tu ?
Excellente idée, Bruno. Cela me donnerait peut-être envie de m'intéresser de plus près à ces événements sportifs. Mais toi, Bruno, tu n'as pas l'air d'aimer la crème autant que moi.
Je mange volontiers toutes sortes de gâteaux et de pâtisseries. Mais c'est avec une simple madeleine que je suis le plus aux anges.
La madeleine est simple, mais c'est une des recettes les plus délicieuses qui soient. Tu connais l'anecdote de la création de cette pâtisserie ?
Oui. On dit que ce gâteau serait devenu célèbre à Commercy, un jour où un duc avait organisé une réception. Le cuisinier se serait fâché et aurait emporté les desserts avec lui. À la dernière minute, une jeune cuisinière nommée Madeleine aurait proposé de confectionner un gâteau avec une recette de sa grand-mère moulée dans une coquille Saint-Jacques. Les invités auraient été aux anges et le duc aussi.
Et cette fameuse recette s'est ensuite appelée Madeleine de Commercy et a fait un tabac.
Cette pâtisserie est presque devenue un mythe grâce à l'écrivain Proust. Il décrit dans son roman « À la recherche du temps perdu » tous les sentiments et les sensations qu'il retrouve en mangeant une simple madeleine trempée dans le thé, comme dans son enfance. D'un coup, tous ses souvenirs reviennent et il commence l'écriture de ce roman. On a d'ailleurs, depuis, l'expression en français « une madeleine de Proust ».
Je pense que dans mon cas, il faudrait changer l'expression. Elle deviendrait le millefeuille de Proust. Et bien voilà, sur ce, nous concluons l'épisode de cette semaine. Salut à tous nos auditeurs. Salut Bruno.
Salut Catherine. Et tout cela m'a donné vraiment très faim. À bientôt à tous.